La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Merci de votre fidélité à RFI, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de la Radio du Monde, comme chaque vendredi. C'est la libre antenne, on revient sur les sujets de votre choix. Vous pouvez revenir sur des discussions de la semaine, en lancer d'autres aussi. Pourquoi pas nous alerter également sur des sujets peu ou pas traités dans l'émission et sur RFI. Alors, pour commencer cette libre antenne, direction Abidjan. Bonjour Serge Armand.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, merci, et vous-même?
Oui, ça va très bien.
Alors, le gros fait d'actualité en Afrique francophone cette semaine, bien sûr, c'est le décès de DJ Arafat, le musicien ivoirien mort lundi au lendemain d'un accident de moto. On a entendu mercredi de nombreux témoignages dans l'émission, notamment Didier Zokora, l'ancien footballeur, et Azalfo de Magic System. Vous, Serge Armand, vous souhaitiez revenir sur la personnalité de DJ Arafat qui vous plaisait particulièrement.
Oui, sa personnalité. Pour moi, Didier Arafat, le commentaire que je fais de lui est intellectuel. Et l'image de l'artiste, pour moi, est philosophique. Philosophique de la mesure où il y a Didier Arafat qui exprime la démesure dans sa musique coupée décalée. Et je vous précise que cette démesure n'est pas du tout quelque chose de mauvais, c'est une valeur. Parce que la démesure fait référence dans la mythologie grecque à Dionysos. Il y a quatre éléments essentiels à retenir, de Didier Arafat. J'explique. D'abord, le premier élément, c'est que son image est philosophique. L'image nietzschéenne de Didier Arafat. Le fait de braver les obstacles, chanter les tabous, se construire ses propres principes tout en rejetant les dogmes établis par la société. La création de ses concepts artistiques pour bien sûr convaincre. Il y a un deuxième élément, sur Didier Arafat, c'est son influence. Son influence sur le grand public, surtout la jeunesse. Parce qu'il a su interpréter artistiquement le mot, le désespoir, et à partir de ses interprétations, il a pu trouver des solutions précises pour pallier le mot. Le fait de s'armer de courage, d'espoir, croire en sa capacité ou son talent. Vaincre la rue pour se construire un...
Ouais, quand il parlait en Côte d'Ivoire, tout le monde l'écoutait.
Quand il parlait, tout le monde l'écoutait, surtout la jeunesse. Et il a légué un très bon héritage à la jeunesse. En Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde, sa musique, qui est rythmique, celle à laquelle, bien sûr, se reconnaît toute une jeunesse, consciente et soucieuse. Voilà, c'est vrai que Didier Arafat n'est pas que apprécié, il est déprécié. Et je précise que ceux qui déprécient le plus Didier Arafat, ce sont les bureaucrates. Pourquoi les bureaucrates déprécient Didier Arafat? Ils déprécient Didier Arafat parce que Didier Arafat n'est pas pour leur dogme le principe.
Il était trop libre, selon vous. Trop de liberté.
La liberté, c'est une valeur philosophique. Lisez Nietzsche. La liberté, c'est une valeur philosophique. Il se construisait lui-même ses propres principes. Et c'est ce qui, je vous assure, n'était pas bien selon les bureaucrates. Les bureaucrates ne l'appréciaient pas à cause du fait qu'il était libre et que lui-même était capable de se construire ses propres principes.
Merci Serge Armand, vous étiez en ligne d'Abidjan. En tout cas, le décès de DJ Arafat a eu un écho partout en Afrique. Hein. Bonjour Alain.
Oui, bonjour François, comment allez-vous?
Ça va, merci Alain. Vous êtes à Yaoundé au Cameroun et chez vous aussi, il y a eu des rassemblements.
Oui, il y a eu des rassemblements. Écoutez... Quelques minutes après l'annonce du décès de DJ Arafat, je me suis amusé un peu comme ça à faire quelques tours dans la ville de Yaoundé et j'ai pu m'apercevoir de ce que dans certains carrefours, il y avait des rassemblements, un peu comme si finalement les fans de DJ Arafat avaient besoin d'être ensemble pour se consoler. C'est dit qu'il avait effectivement une très grande influence sur la jeunesse, pas seulement ivoirienne, mais africaine de façon générale. Mais je pense que de mon point de vue, le phénomène, l'aspect le plus important que moi je retiens de Didier Arafat, c'est précisément le mystère qu'il fallait percer pour le connaître. En fait, lorsque Didier Arafat sort son premier tube, Jonathan, ce tube a connu un très grand succès, mais ce succès en réalité ne préfigurait pas de la dimension planétaire que l'artiste devait avoir après. Et précisément, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il s'impose avec autant d'influence, avec autant d'envergure sur la scène musicale, au point de rivaliser d'adresse et peut-être même de dépasser ceux qui, avec Doug Saga, avaient créé le rythme coupé décalé. Je pense que la réponse à cette question est tout simple. Le travail et le travail. Ouais, je l'ai dit pourquoi. Parce que vous savez, moi je suis à Yaoundé, mais on avait un ami en commun. Et je voudrais partager ce geste avec vous. Déjà, en fait, c'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps en studio, contrairement à ce que d'aucuns croiraient. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, c'est quelqu'un qui parfois ne dormait pas, il rentrait de ses soirées, il travaillait, il cherchait de nouvelles mélodies, de nouvelles sonorités. C'est quelqu'un qui était très attaché au travail.
Il pouvait passer pour quelqu'un d'un peu dilettante, qui passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux avec un goût de la provocation et du clash, mais son succès, c'est surtout le fruit du travail et c'est ça l'exemple qu'il doit laisser, selon vous.
C'est ça l'exemple qu'il doit laisser. Moi, je voudrais que l'on retienne des DJ. Moi, je vais vous faire une confidence, c'est que je ne suis pas un très grand fan du coupé décalé, mais je me suis quand même amusé à suivre ce garçon parce que je vous ai dit qu'on a un ami en commun et c'est très important de retenir effectivement cette valeur-là. Le travail, le travail, le travail. Et c'est ce que moi je voudrais que la jeunesse retienne aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était très provocateur à travers ses vidéos sur Facebook. C'est quelqu'un qui avait souvent des scènes d'insultes à l'encontre de ses condisciples. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement ce côté-là que la jeunesse doit retenir aujourd'hui. Retenons plutôt les valeurs de quelqu'un qui était un self-made man, comme on dit en anglais, et qui en réalité se battait pour toujours créer, pour proposer de nouvelles choses, pour innover, pour proposer de nouvelles sonorités. Pour moi, Didier Arafat, c'était une véritable référence pour la jeunesse africaine et je voudrais que ce soit cette image que l'on retienne aujourd'hui.
Merci Alain, vous étiez en ligne de Yaoundé. Un autre sujet maintenant dans la libre antenne. Bonjour Abdoul.
Bonjour monsieur François.
Abdoul, vous êtes à Conakry, bienvenue. Vous souhaitez revenir sur les commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Provence. C'était hier. Comment avez-vous vécu cet événement?
Évidemment, avec une grande joie, surtout la reconnaissance du président français de nos héros tirailleurs sénégalais, guinéens et ivoiriens. Et parce qu'il s'est démarqué de ses prédécesseurs pour avancer de plus sur ce dossier, parce qu'on le sait depuis longtemps que la France a eu des difficultés quand même à reconnaître cette partie de l'histoire qui est ici de l'Afrique, parce que l'Afrique a contribué massivement pour la libération de la France, notamment surtout sur le débarquement des Alliés, on se rappelle, en 1944. Et nous a enseigné dans les différentes classes que l'Afrique avait participé dans plusieurs plans, non seulement militaires, économiques, et aussi stratégique. Et là, moi, je me réjouis pour le discours du président français parce que pour dire que la France a une partie de l'histoire en Afrique, c'est reconnaître ici ce sang versé, ici ces martyrs qui sont tombés ici pour la libération de la France. Bien, c'est sûr que la France doit faire de mieux pour reconnaître absolument cette partie de l'histoire qui est ici une histoire de l'Afrique.
Oui, Emmanuel Macron, hein, qui a employé des mots très clairs, ça n'avait pas toujours été le cas des présidents français jusque-là. Et côté africain, est-ce que dans les écoles, dans les sociétés africaines, on ne doit pas aussi travailler davantage ce récit, cette mémoire?
Et bien sûr, on est en train de travailler. Je pense qu'on doit faire mieux que ça, parce que dans les manuels scolaires, il y a l'histoire, mais pas tellement la manière dont on enseigne l'histoire de nos pays africains. Parce qu'on dit le plus souvent les tirailleurs sénégalais, et on le sait qu'il y a les tirailleurs guinéens, il y a les tirailleurs ivoiriens, pourquoi pas camerounais. Et je pense qu'on doit avancer de plus, reconnaître cette histoire. Là, comme le président de la République française disait hier, donner de nom ou de place à certains héros africains qui se sont battus, ça fera mieux aussi d'enseigner cette nouvelle génération une histoire qui est longtemps ignorée par bon nombre de Français.
Merci Abdoul d'avoir été en ligne de Conakry où il est 8h50, direction Bangui maintenant, avec deux auditeurs qui voulaient revenir sur notre débat de mardi sur le possible retour au pays de l'ex-président François Bozizé, renversé en 2013, et d'autres dirigeants exilés, avec en toile de fond bien sûr la présidentielle prévue l'an prochain. Bonjour Saint-John.
Bonjour.
Pour vous, François Bozizé, il fait partie du problème centrafricain mais aussi de la solution?
Oui, il fait partie du problème centrafricain et il fait partie également de la solution. Moi, je ne suis pas contre le retour de l'ex-président François Bozizé, ni de l'ex-président Diotodia, mais je souhaite que cela passe par la case justice. Hein. pour une réelle réconciliation. Il faudrait que le peuple sache ce qui s'est passé, comment cela s'est passé et pourquoi cela s'est passé, pour que cette réconciliation soit véritable et durable.
Mmh. Il faut qu'il rentre pour aller devant la Cour pénale spéciale.
Ben, il n'y a pas que la Cour pénale spéciale. Nous pensons que même les tribunaux centrafricains, comme à l'époque, Sa Majesté Jean-Bédel Bokassa a été jugé par le tribunal, une cour spéciale composée à cet effet. Donc nous pensons qu'il y a des magistrats encore capables d'accomplir cette mission et de restituer l'histoire.
Vous faites confiance aux magistrats centrafricains pour pouvoir juger ces personnes-là, ces dignitaires, de bonne manière?
Mais je pense que la dernière fois, lorsque le procès de l'ex-empereur Jean-Bédel Bokassa a eu lieu, toute la communauté internationale a salué la clairvoyance, l'impartialité des juges centrafricains à cet effet. Pourquoi ne pas faire confiance à nos juges à cet effet?
Merci Saint John. On va demander l'avis de Théophraste qui est aussi en Centrafrique. Théophraste, bonjour, vous êtes d'accord avec votre compatriote?
Oui, bonjour François Mazé. À mon avis, François Bougier, c'est un citoyen centrafricain. S'il veut venir dans son pays, ben, il n'a qu'à venir. Mais moi, je ne vais pas forcément limiter à ce niveau. Dans un premier temps, il faut d'abord passer à la phase justice. La justice est hyper importante parce que de tout ce qui s'est passé dans notre pays, on ne tient seulement compte des combattants, des bourreaux, de ceux qui ont tué. Mais à quand on va penser maintenant aux victimes? Donc, au moins pour un apaisement, il faut procéder d'abord à la case justice et voilà, pour voir ce qu'il y a à faire.
L'amnistie, ça serait la pire des choses, selon vous, l'amnistie de chefs de guerre ou d'anciens dignitaires?
Non, moi, il faut que ce mot-là soit élagué. Au moins, on en a trop. Les centrafricains ont trop souffert. Mm-hmm. Parler de l'amnistie, c'est comme si on procède à une prime à la tuerie. Imaginez-vous, quelqu'un, devant vous, on a tué vos parents, vos enfants, vos femmes, on les a violés. On vous a pillé quelqu'un qui a consacré toute sa jeunesse à servir le pays, à construire sa vie. Et on a brûlé sa maison. Et voilà, son bourreau est là. On dit, ben, au nom de la paix, il faut le laisser. Imaginez-vous quand même ce que ça donne.
Et vous faites confiance à la justice centrafricaine pour qu'elle passe de bonne manière?
À ce niveau, je ne dirais pas du coup, c'est la justice centrafricaine. Je crois les infractions, il y a les catégories des infractions. Il y a certaines infractions qui sont à la hauteur de la CPI. Il y a certaines qui sont aussi réservées à la justice centrafricaine. Imaginez, moi je veux pas qu'il y ait de la partialité. Ça c'est ce que je veux, ça c'est mon avis. J'aimerais qu'on doit commencer par la base des crimes pour les catégoriser. Si on les catégorise, c'est les crimes que l'auteur a commis nécessitent de passer par la CPI. Mais alors, tant mieux. Et ça sert à rien de jouer à un petit jeu pour dire voilà. Parce que nous, dans ce pays, on se connaît. On sait qu'il y a certaines personnes qui sont là. Ils prennent certains chefs de guerre qui étaient, dans un premier temps, leurs mentors et qui les a fait ce qu'ils sont. Et pour les amadouer, ou bien pour les protéger au nom de leurs liens, ben voilà. C'est ce qu'on ne veut pas. Moi, dans un premier temps, il faut penser d'abord à la catégorisation de ces infractions pour voir. Est-ce que la personne, l'auteur, le présumé auteur mérite de passer à la CPI? On le fait passer à la CPI. Si c'est pour passer à la CPS, mais voilà, faisons avec la règle du jeu. Alors.
Voilà, le chemin vers la justice en Centrafrique. Merci Théophraste d'avoir été avec nous ce matin. Christian nous attend à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors vous attendez toujours votre gouvernement en RDC et vous espérez que cette attente en vaudra la peine.
Oui, nous attendons la publication du gouvernement parce que ça fait un peu plus de 7 mois que le pays évolue sans un budget conséquent et nous avons besoin de la publication du gouvernement pour permettre à ce que le budget soit défini et que l'administration se déroule normalement. Parce que nous sommes dans une situation où le retard implique les reculs à tous les niveaux et nous sommes vraiment impatients pour la publication du gouvernement et que ce gouvernement restaure la confiance entre le ménage, donc entre la population et le gouvernement. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'il y a rupture, il y a scission de confiance entre la population et le gouvernement par rapport à tous les abus qu'il y a eu et par rapport à la méfiance et la mégestion du gouvernement précédent.
Alors, comment la retrouver, cette confiance? Qu'est-ce que doit faire ce nouveau gouvernement dès qu'il est formé?
Exactement. Donc, je voudrais dire que pour retrouver cette confiance, nous devons permettre à ce que le gouvernement, qui sera publié d'ici 2 ou 3 jours et qui sera investi peut-être la semaine prochaine, nous donne ce que la population a besoin. Le président de la République a parlé de l'état de droit. Or, l'état de droit implique le respect de texte, et le respect de texte doit découler à partir de la lutte contre les antivaleurs. Or, ces antivaleurs permettront à ce que, s'il faut réprimer ces antivaleurs, cela permettra... Alors,
excusez-moi Christian, j'ai un peu de mal à vous suivre. Qu'est-ce qu'il faut concrètement dans la formation de ce gouvernement pour qu'il y ait un rétablissement de confiance? Il faut que le gouvernement représente réellement la société congolaise?
Pour le rétablissement de la confiance, il faudra appliquer l'état de droit qui nécessite l'implication de la justice dans les antivaleurs et à pouvoir réprimer la corruption et tout ce qui a gangréné comme mot. D'accord. Dans la gestion de la chose publique.
Quand le FCC, semble-t-il, de ce qu'on sait en tout cas des discussions, souhaite remettre dans certains ministères des personnalités sous sanctions européennes ou américaines, pour vous, c'est un non catégorique?
C'est un non catégorique parce que les gens qui n'expriment pas confiance et qui n'inspirent pas non seulement la confiance de la communauté internationale, mais aussi des États-Unis, ne peuvent pas figurer sur le gouvernement qui sera publié, de peur de bloquer surtout la politique internationale de la RDC. C'est un pays qui sort de la crise et nous avons besoin de la confiance sur le plan international. Or, toutes ces figures qui ont travaillé et qui ont brillé par la mégestion ne peuvent plus revenir. Et toutes ces figures-là doivent normalement laisser la place à une nouvelle classe politique pour pouvoir tenir le fanion et représenter la République démocratique du Congo sur le plan international.
Merci Christian. On va demander l'avis d'un autre Kinois. Bonjour Alain.
Bonjour RFI, bonjour à tout le monde.
Pour vous, ces semaines d'attente, comment ça se passe?
Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris, parce que je connais très bien les intentions de M. Félix Tshisekedi, qui voulait freiner les choses pour se faire une santé financière. Tout le monde le sait. Et bien qu'il semble qu'il y a une opinion qui pense qu'il est animé d'une bonne foi, mais ce qui est vrai, si on nous dit qu'il refuse de voir les caciques de FCC, mais il faut reconnaître qu'il y a un gouvernement qui est en place, qui travaille et qui est constitué essentiellement des kabylistes. C'est que sous-entend le prétexte disant qu'il voulait renouveler la classe politique, il voulait empêcher à ce que les autres là reviennent.
Pour vous, Félix Tshisekedi, il est complice du maintien au pouvoir des alliés de Joseph Kabila, peu importe que ça soit le gouvernement actuellement en place ou le futur gouvernement qui doit être nommé. Pour vous, c'est la même chose?
Bon, en fait, effectivement, ce qui est vrai, c'est que M. Félix Tshisekedi, lui aussi, a intégré le système Kabila. Il apparaît aujourd'hui comme un kabyliste.
Alors intégré, je ne sais pas, mais les choses sont ainsi faites qu'il est à la présidence, mais que toutes les autres manettes du pouvoir ne sont pas entre ses mains.
Oui, mais au-delà de ça, il y a un arrangement, il y a un accord qui les lie. Qui fait qu'aujourd'hui, bien qu'il fait semblant d'apparaître comme un autonome, mais nous savons qu'il a aliéné toute sa liberté. Il dépend aujourd'hui de M. Kabila.
Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire, selon vous? Il aurait dû refuser d'aller à la présidence dans ces conditions-là ou faire refaire des législatives?
Non, mais effectivement, ce qu'il devait faire, c'était d'éviter à ce que nous restions dans la même crise. C'est-à-dire qu'il n'a pas été le choix de la population et il a sauté sur l'occasion.